Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime avec Justine Vigneault, avec Laure Broulard. Et à la une de notre émission, ce sanglier des morts. Je pense que, évidemment, quand on parle de ce surnom pour tous ceux qui habitent hier, la région de la ville d'Hyères et le Var, tout le monde sait ce qui se cache derrière cette appellation. Un homme qui s'appelait Albert Millet, que tout le monde appelait aussi Pierrot, pensant à Pierrot le fou, hein, quand même, qui est un homme à la vie très agitée, qui avait commencé des petites rapines, des petits vols, des petites violences à l'âge de 14 ans, qui est parti après au Badaf, hein, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire c'est là où on mettait les fortes têtes pour faire leur service militaire. Il en était rentré d'ailleurs tireur d'élite. Et puis un homme petit, froid, avec des yeux bleus, très très perçants. Et cet homme impressionnait, on va dire, quoi. C'était pas un bavard, mais c'était aussi un cœur d'artichaut. Voilà, c'était quelqu'un qui tombait régulièrement amoureux. Et le problème, l'énorme problème de la vie de cet homme, c'est que chaque fois qu'une femme lui disait que c'était fini, eh bien, il tuait. Où il tentait de tuer. Alors, on va vous raconter son histoire à cause d'une auditrice de l'heure du crime. Son courriel était tellement anonyme d'ailleurs qu'elle nous a même pas donné son prénom. Mais je pense qu'elle n'était pas du tout partie prenante de cette histoire. C'est quelqu'un qui connaît bien la ville d'Hyères parce qu'elle y va en vacances souvent. Et comme je le disais tout à l'heure, comme tout le monde connaît l'histoire de Pierrot, d'Albert Millet, du sanglier des morts, on lui a parlé de cette histoire. Elle a voulu en savoir plus et c'est pour ça qu'elle nous a contactés sur RTL.fr. Alors dans un instant, on va retrouver d'ailleurs en direct du Var un homme qui est vraiment un acteur important de ce dossier. Il s'appelle Didier Fabre. À l'époque, et quand je dis à l'époque, on va dire dans les années 1979-80, il était jeune enquêteur au commissariat de la ville d'Hyères. En plus, il nous dira tout à l'heure dans quelles circonstances il connaissait Albert Millet avant que celui-ci ne tue sa deuxième compagne. Et puis, on évoquera la personnalité de Millet avec celle qui fut son avocate plus tardivement, après les années de 2000. Et puis, j'ai demandé aussi au docteur Serge Bornstein, qui est psychiatre, expert auprès des tribunaux, de venir nous rejoindre pour nous aider à décrypter à la fois les scénarios étranges de ces crimes passionnels à répétition et la personnalité hors norme, il faut bien le dire, d'Albert Millet. Bonjour Serge Bornstein.
Bonjour.
Alors bon, vous êtes psychiatre expert, je l'ai dit, donc vous fréquentez de très près depuis de très nombreuses années la psychologie criminelle. Je crois que cette histoire, vous ne la connaissiez pas. On vous a donné le dossier.
Oui.
Pour vous demander un avis, alors pas une expertise, on n'est pas devant un tribunal,
non, certes.
Mais on donnera tous les détails de l'histoire, mais vous les connaissez. Hein. Votre première réaction ?
Première réaction, c'est que c'est un criminel hors série, par le nombre des passages à l'acte, par le côté implacable de sa détermination, et que effectivement, il a connu un destin hors du commun.
Oui, parce que les passages à l'acte, on s'adresse en général, on se tourne vers les psychiatres pour dire, s'il vous plaît, expliquez-nous, et les tribunaux le font, les cours d'assises, essayez de nous faire comprendre comment cette personne est passée à l'acte. Là, on a quelqu'un qui passe à l'acte 4 fois en 50 ans.
4 fois, et s'il ne s'était pas suicidé à 78 ans, peut-être encore il y aurait eu une 5e
affaire. Ouais. Alors ça, c'est quand même très rare.
C'est très rare, très rare. Effectivement, et c'est un criminel né, comme aurait dit Lombroso, le spécialiste italien.
Oui. Alors, quand vous dites bon criminel né, ça, c'est quand même, ça doit faire bondir un certain nombre de gens qui nous écoutent,
oui.
Notamment un certain nombre de confrères à vous et de magistrats ou d'avocats. Mais pour en revenir au scénario donc de cet homme, c'est des crimes passionnels. Alors, quand on dit il a tué 4 fois, il a pas tué 4 épouses. Hein. Il a, au tout début de sa vie, mais on racontera ça plus en détail dans un instant, il est amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Paulette, qui a 16 ans. Il lui fait une cour, mais lui, il en a 26. Hein. Et puis, évidemment, comme il a un passé quand même, il est connu, comme on dit, défavorablement des services de police, la tante de cette jeune fille met le holà en disant « Mais non, il ne faut pas fréquenter un type comme ça ». Et finalement, il apprend que la tante a interdit à Paulette de le voir. Paulette va lui dire « C'est fini notre petite romance hein, », parce qu'il allait la retrouver à la sortie du restaurant où elle travaillait le soir, comme ça, voilà, pour... c'était très Roméo et Juliette, hein, pour s'embrasser un peu sous la lune ou sous les réverbères. Et à ce moment-là, le jour où il apprend que ça ne va plus, il prend son pistolet, il va attendre Paulette à la sortie du restaurant, elle sort les poubelles. Métallique, heureusement pour elle. Il tire 3 fois dans la poubelle. Après, il dira, mais je suis tireur d'élite. Si j'avais voulu la tuer, je l'aurais tué. Mais le problème, c'est qu'il va tuer la tante.
La tante
devient 3 balles également. Et là, lui, il n'y a pas de grâce. Hein.
La tante devient un obstacle à ses amours et il est impitoyable.
Oui. Alors... Maintenant, quand on a dit ça, on est forcé de constater, vous êtes démuni.
Non, je pense que ce qu'il faut, c'est remonter en amont la personnalité de l'auteur. Mmh. Alors, des pédopsychiatres byzantins ont étudié en crèche le comportement de certains enfants. Et on s'est aperçu qu'un petit bébé garçon sur 10 présentait des signes de domination. Et qu'il allait les effectuer tout au long de son existence, ouais. Tant sur le plan social que sur le plan sexuel. Ouais. Et ça, quand on sait que l'individu est biopsychosociologique, ouais. Qu'il y a un mâle dominant, avec 20-25 personnes, nous sommes, dans notre mémoire génétique, programmés pour évoluer, non pas sur un mode sociologique urbain, mais dans la savane, un mâle dominant qui est alors impitoyable, tant sur le plan relationnel que sexuel.
Alors, heureusement, tous les mâles alpha, comme ceux que vous êtes en train de décrire, ne sont pas passés à l'acte. Tous ceux qui ont été brutalisés dans leur enfance, qui a été le cas d'Albert Millet, puisque son père était alcoolique, le battait, et puis en fait, n'a pas beaucoup participé à son éducation. Sa mère aussi, avait une vie, assez moyenne. Mais heureusement, tous les gens qui vivent des difficultés comme ça au départ de leur vie ne deviennent pas des tueurs. Mais là, on a une première approche quand même et je me permettrai de revenir à vous tout à l'heure. Là, on va faire une pause.
Il a développé le caractère sociopathique
au maximum.
Au maximum, et on reviendra sur ce...
On reviendra sur tout ça d'ailleurs en demandant leur avis et en demandant peut-être des informations, s'ils en ont, à mes autres invités qu'on va découvrir dans un instant, à commencer tout de suite après cette pause par Didier Fabre. C'est le nom de ce policier à l'époque qui était enquêteur au bureau au commissariat de hier. Puis on le demandera également à Madame Maître Mireille Damiano, donc du barreau de Nice, qui a été l'avocate d'Albert Millet.
Jacques Pradel sur RTL.
Et nous parlons aujourd'hui de la trajectoire sanglante de celui qu'on a appelé effectivement le sanglier des morts, Albert Millet, l'autre Pierrot le fou. Je dis tout ça parce que c'est sur la couverture du livre de Monsieur Didier Fabre qu'on va rejoindre maintenant. C'est un livre qui est paru aux éditions des Presses du Midi. Bonjour Didier Fabre.
Bonjour Monsieur Pradel.
Alors merci
bonjour à tout le monde.
Merci beaucoup d'avoir accepté de revenir là-dessus parce que moi je connaissais pas l'existence de votre livre. En fait c'est grâce à cette auditrice qui nous a dit mais tout le monde parle encore du sanglier des morts à hier. Juste une première question très brève Didier Fabre. Vous confirmez qu'avec l'affaire Yann Pia c'est la plus grosse affaire de votre carrière de policier?
Oui tout à fait. Mais bon la participation que j'ai eue dans l'affaire Yann Pia est nettement moindre que dans l'affaire Millet.
Et oui, et concernant l'affaire Millet, on va y venir. Il y a un certain 13 juin 1979, évidemment, que vous n'oublierez jamais. Pour savoir ce qui s'est passé ce jour-là, il faut comprendre un petit peu le contexte. Alors, on vient au contexte. Vous êtes, en 1979, vous êtes jeune policier au commissariat. En fait, il y a un gars qui vient pointer, c'est ça, parce qu'il a été libéré en conditionnel après 22 ans de prison, hein.
Voilà, c'est ça. Donc en 19 ans, je crois qu'il avait fait. Ouais. Parce qu'il a été, il a été libéré en 73. En fait, il était sous le régime de semi-liberté puisqu'il était à la au centre de détention de Clermont-Ferrand.
Ouais. Mmh.
Et donc il bénéficiait de permission de sortie.
Ouais.
Mais il avait noué des contacts avec Fernande Valentin, mmh. qui allait devenir son épouse, ouais. Par courrier.
Ouais.
Et ils se sont retrouvés donc à l'occasion de ses permissions de sortie.
C'est ça.
À cette époque-là, ouais. donc mmh. entre sa libération et le jour où et le moment où je l'ai rencontré, il devait donc il était interdit de séjour dans le Var.
Ouais.
Donc il devait satisfaire à une obligation de pointage, de, ouais. c'était un contrôle, on appelait ça un contrôle judiciaire hein, tout simplement.
Voilà.
Donc
ouais.
il venait tous les mois.
Ouais. Et alors un jour il vient pointer, puis vous allez aux archives pour voir un peu le dossier. C'est là que vous découvrez, si j'ose dire, un peu ses états de service.
Voilà, parce que moi. Quand j'ai eu connaissance évidemment de son dossier, mais je ne connaissais pas les détails. Je savais qu'il avait commis un meurtre en 1954.
Ouais.
Mmh. Et le jour où il est venu, la première fois où il est venu pour pointer, j'ai senti dans le personnage, j'ai senti qu'il avait quand même un profil très particulier.
Oui, dans votre livre d'ailleurs, vous dites que ce qui retenait l'attention chez cet homme, c'est le regard. Hein.
C'est ça.
Ouais. Parce qu'il n'était pas très impressionnant, autrement il n'était pas baraqué, c'était un bien.
Physiquement, il était tout à fait normal, même en dessous de la normale. Hein.
Voilà. Mais ses yeux, quoi, ce regard.
Voilà. Il avait un regard qui en dit long. Ouais. Voilà, on va dire comme ça.
Ouais. Et alors, ce qui est fou, c'est que vous le racontez. C'est vraiment, moi, j'ai lu votre livre comme un polar. Hein, mais bon, c'est un vrai polar, il se trouve. Vous, avec d'autres policiers du commissariat de hier, vous allez souvent dîner ou déjeuner dans une brasserie, quoi. Et là, vous êtes surpris. Vous êtes à l'apéro et qui est-ce qui se pointe, Albert. Et ben, il fait des petits boulots, c'est ça, pour le patron de la brasserie.
Voilà, il a gardé les contacts, bon, avec des gens qui connaissaient de hier et qui étaient originaires de hier.
Ouais.
Et donc, il allait les voir et il leur demandait s'ils pouvaient faire une petite bricole pour eux. Ils faisaient des jardins. La brasserie en question, donc, il venait le soir pour rentrer à la terrasse. Il donnait un coup de main à débarrasser les tables.
Ouais.
Et bon, on le rétribuait, évidemment, de la main à la main, par un petit billet.
Mais là, c'était, vous n'aviez pas beaucoup d'expérience hein, de policier vous à l'époque, mais le commissaire avec qui vous alliez, enfin votre supérieur hiérarchique, on va dire, lui, il avait quand même une certaine bouteille et connaissait ses états de service. Mais vous n'aviez pas l'idée comme ça que ce type allait recommencer, parce que il a une chance incroyable quand même pour quelqu'un qui tue froidement de 3 balles la tante de Paulette. Il est condamné à mort. Le procès est cassé. Par la Cour de cassation, c'est commué en peine de travaux forcés, et là encore, un peu plus tard, à 20 ans de réclusion.
C'est ça, tout à fait. Il a échappé plusieurs fois à la mort, et bon, en particulier, donc, quand il a été interpellé après la première affaire, deux jours après l'assassinat d'Élise, quand il a été interpellé par les policiers, donc il était armé, les policiers l'ont demandé de se rendre, et au lieu de ça, bon, il leur a tiré dessus, donc ils ont riposté,
il a été touché,
il a reçu 3 projectiles dans la tête.
Ouais.
Il a été transporté à Marseille et il s'en est sorti.
Et il lui restait une sorte de paralysie, un petit rictus un peu...
Voilà, une petite paralysie faciale.
Qui devait impressionner aussi un peu, quoi. Ouais.
Voilà, qui lui donnait un air encore plus sympathique.
Oui, mais cela dit, on se dit que après avoir eu cette chance, encore, je réemploie le mot. Enfin, n'importe qui se dirait, bon, je vais me faire oublier, quoi. Alors, en fait, quand il sort de prison, vous dites en 73 hein, ou 75, je sais plus, il y a eu cette idylle avec Fernande. Pouvez nous donner un mot. Fernande était, si j'ai bien compris, la compagne d'ailleurs d'un ami d'Albert qui lui avait plus ou moins, qui l'avait envoyé au parloir pour lui remonter le moral, et puis finalement il y a eu un coup de foudre.
Voilà, c'est ça. Mais ils se connaissaient parce qu'ils ont vécu donc dans leur enfance, ils ont vécu dans le même quartier,
en plus,
le quartier Saint-Paul ailleurs, c'est en haut de la vieille ville.
Ouais.
Et ils ont, je pense, J'en ai jamais eu confirmation, mais je pense qu'il échangeait par courrier alors que Millet était en prison.
Il était en prison, voilà, oui.
Voilà. Ils se sont retrouvés à l'occasion des permissions de sortie qu'il a eues lorsqu'il était dans ce centre de semi-liberté. Ouais. Il fait toujours interdit de séjour dans le Var. Bon, ouais. Je pense qu'il devait venir de temps en temps quand même, mais...
Quand on vous lit, ben vous dites, voilà, on le voit au bistrot un peu, il range les tables aux terrasses, il donne pas l'impression de quelqu'un qui va recommencer, puis il est casé, hein, entre guillemets, avec Fernande, c'est une fille plutôt bien, quoi, bon. Et puis, arrive ce fameux 13 juin 1979, tôt le matin, des coups de feu, évidemment, des coups de fil qui commencent à arriver au commissariat, on apprend qu'il y a un forcené, quelque part, qui tire. Est-ce que vous pensez tout de suite à Albert ?
Pas du tout.
Pas du tout, hein, en fait.
Ouais. Pas du tout, parce que bon, si vous voulez, bon, quand on est de permanence, c'est des choses qui ne s'arrivent pas fréquemment, mais enfin, ça peut arriver de temps en temps. Et comme je disais à votre assistante hier ou avant-hier, je disais bon, que ça, quelquefois, c'était vraiment pour rien, c'est-à-dire qu'il suffisait que des enfants jettent quelques pétards.
On appelle la police. Mais enfin là, c'est pas des pétards, c'est des coups de feu. Il y a des coups de carabine, il y a des coups de pistolet, et vous allez en arrivant à l'endroit où on vous a signalé que se tenait ce forcené, là vous allez comprendre que c'est bien Albert.
Voilà, là on a la confirmation d'abord que effectivement il utilise deux armes, donc qu'on va découvrir plus tard, mais surtout qu'il s'agit de la maison de l'Albert Millet. Donc là, bon.
Là, évidemment, vous faites le rapport, quoi.
J'ai tout de suite compris ce qui avait dû se passer.
Voilà, et puis alors il y a une voisine qui va venir vous voir en disant bah, tout à l'heure, quand il tirait sur tout ce qui bougeait, il avait dit j'ai tué ma femme. À la une de l'heure du crime aujourd'hui, c'est l'histoire d'Albert Millet, dit le sanglier des morts, qu'on vous raconte avec Didier Fabre, qui était policier à l'époque et qui va nous raconter cette espèce de huis clos, mais enfin en extérieur, vous allez comprendre, pendant des heures, il est face à ce forcené ivre, et il n'est pas tout seul, hein, il y a aussi d'autres policiers de hier qui sont là, plus loin il y a le GIPN avec le fameux commissaire Van Logg, mais enfin, qui fera pas grand chose là, au cours de cet assaut, sauf peut-être des conférences de presse après l'événement, ça on en parlera tout à l'heure. Et puis on en parlera dans un instant de la personnalité de cet homme vraiment hors norme avec Maître Mireille Damiano du barreau de Nice qui a été amené à être son défenseur. On en parle également avec le docteur Serge Bernstein qui est près de moi ici à Paris dans le studio d'RTL. Alors je reviens à vous Didier Fabre, donc vous êtes là, devant l'endroit, c'est quoi? C'est un rez-de-chaussée comment vous pouvez nous situer ce que vous découvrez en arrivant avec vos collègues?
Oui, donc la maison d'Albert Millet est située en rez-de-chaussée, donc au numéro 5 de la rue de la Croix. Ouais. La fenêtre de sa chambre, donc à laquelle il se trouve, donne sur un petit square qui est en contrebas.
D'accord, donc il est en surplomb, quoi, par rapport
voilà,
à vous, en fait.
Son appartement est en surplomb par rapport à l'endroit où on va se situer par la suite.
C'est ça, c'est-à-dire l'entrée est au rez-de-chaussée, mais la chambre, pour vous, elle est en hauteur. Ce qui fait évidemment que ça vous pose un problème, là, je reviens à un problème technique, hein, parce que vous, ce que vous voulez, c'est quoi, avec vos collègues? C'est vous introduire dans la pièce, essayer de... Parce qu'il va demander à voir des gens.
C'est ça, tout à fait, oui. Ça a duré 3 heures, donc il est impossible de rentrer dans les détails. Ouais. Mais au départ, il accepte de me parler, de m'expliquer ce qui se passe, parce que on se connaissait, justement. Ouais. On s'était vu 2-3 fois auparavant.
Enfin, il vous fait poser votre arme, hein, quand même, et lui, il lâche pas les siennes. Hein.
Tout à fait, c'est ça. Et donc, là, je me rends compte, en fait, que je me trouve pris au piège, parce que je suis en face d'un type qui a été condamné à mort, qui a fait 20 ans, et qui vient de tuer sa femme, puisqu'il me confirme donc qu'il a bien tué sa femme à coups de poignard, et qu'elle gît sur le lit dans la chambre où il se trouve. Et je me dis, bon, à l'époque, la peine de mort n'est toujours pas abolie. Oui. Je me dis, qu'est-ce qu'il lui reste à faire, à part se défendre jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire, il va peut-être me tirer dessus, il va peut-être...
C'est ça qu'il fallait dire pour comprendre pourquoi cette scène, ces trois heures, elles vous ont hanté, si j'ose dire, pendant pas mal de temps, hein, après.
Oui, tout à fait. Mais bon, c'est sur le moment, on ne réfléchit pas.
Oui, bien sûr.
Et mes réactions étaient liées à la situation, quoi. J'ai eu une peur prospective, mais sur le coup, une fois que j'étais dedans, bon, je me suis bien rendu compte du danger, mais
Alors, dites-moi, il est très tôt le matin, il est ivre-mort, on l'a dit, mais il vous amène du cognac, il vous fait trinquer avec lui, il vous oblige carrément à boire une gorgée de cognac à cette heure-là, parce qu'il a vu que la première fois, vous aviez fait semblant.
Oui, c'est ça. Mais ça, c'est un peu plus tard dans la matinée, hein,
heureusement.
Au départ, quand nous sommes arrivés sur place à 9h, il n'était pas ivre-mort. Hein,
oui, alors. C'est
il,
ça.
Il avait bleu certainement un petit peu, mais il était encore tout à fait conscient. Ouais.
Donc c'est au fil de la matinée qu'il va continuer à prendre des rasades de cognac. Et puis alors surtout, ça dure 3 heures parce qu'il veut faire venir des gens. Hein. Il veut faire venir son copain, le coiffeur, je crois, qui était venu le coiffer ainsi que la victime la veille au soir. Et il va y avoir deux prêtres qui vont venir. Pourquoi ? Il veut qu'on bénisse le corps de sa victime.
C'est ça. Il demande d'abord parce que bon, en ce qui concerne le coiffeur, moi je l'ai pas vu, donc revenu, mais je pense pas qu'il soit rentré dans l'appartement. Mais par contre, il a demandé à voir l'abbé Ferrero qu'il connaissait depuis son enfance, qui ne pouvait pas se déplacer, je crois qu'il était malade. Donc on a fait appel au chanoine de hier, qui était Monseigneur Forneau, qui a accepté lui de venir sur place. Donc il est rentré une première fois tout seul pour bénir le corps de Fernande. Il est ressorti un moment plus tard, et c'est à ce moment-là donc mon collègue et ami Jean-Pierre Coe a trouvé le stratagème pour sans doute mettre fin à cette affaire.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'on a chronométré le temps que m'était lié pour se rendre de la chambre à la porte d'entrée, pour ouvrir sa porte, parce qu'il avait une porte avec,
avec des tas de serrures et tout.
Plus une barre de fer qui l'a fermé d'un côté à l'autre. Donc on a chronométré le temps, on a vérifié quand il a refermé pour voir si ça correspondait jusqu'au moment où il est revenu à la fenêtre, puisqu'il tenait toujours, ou pratiquement toujours, à cette fenêtre, toujours avec des armes à la main, évidemment. Et à ce moment-là, donc, on a décidé de passer à l'action lors de la visite des prochains amis, puisqu'il avait demandé à voir donc son avocat, Maître Périmont. Monseigneur Forneau est revenu, il a réussi à convaincre l'abbé Ferrero de venir jusque sur les lieux. Monseigneur Forneau est revenu avec l'abbé Ferrero. Donc on a attendu l'arrivée de l'avocat, et quand Maître Périmont est arrivé, ils sont rentrés tous les trois.
Et alors là, vous savez que vous avez, je ne sais plus combien, 2 minutes 15 quoi, de temps utile. Vous avez Monsieur Coe, dont vous avez parlé, qui s'introduit lui dans la chambre. Il va aller se cacher derrière une porte dans la chambre où il y a la victime, et vous allez passer à l'action. Enfin bon, là on ne va pas rentrer dans le détail, il y a un top, si j'ose dire, action quoi. Et là, vous allez également passer par cette fenêtre qui est en surplomb, parce que votre collègue, il est au corps à corps avec Millet, mais il y a eu un coup de pistolet, c'est-à-dire qu'il n'a pas lâché son arme, hein, c'est ça.
C'est ça, moi je m'apprêtais à grimper donc jusqu'à la fenêtre pour porter assistance à mon collègue, mais au moment où je me trouvais à 2-3 mètres, j'avais pris de l'élan, au moment où il est revenu dans la chambre après avoir fermé sa porte, Jean-Pierre Coe lui a sauté dessus, et à ce moment-là, j'ai entendu deux coups de feu dans la chambre, deux coups de feu de Colt 45 dans une pièce. Je peux vous dire que ça...
Ça fait du bruit, absolument.
Ça se prend,
voilà, alors donc vous y allez.
Donc, j'ai même pas réfléchi, quoi. J'ai sauté sur le mur, je me suis rétabli sur le bord de la fenêtre, et à ce moment-là, j'ai vu, Jean-Pierre Coe et Albert Millet entrelacés, enfin, si on peut dire comme
oui,
ça.
Oui, voilà, bah, ils étaient au corps à corps, et puis vous êtes intervenu, et heureusement, ça s'est bien passé. Je suis obligé de précipiter un peu le mouvement, parce que je suis obligé d'avoir un œil sur la pendule aussi. On se retrouve dans un petit instant, Didier Fabre, et puis on va parler aussi de la personnalité de cet homme. Vous avez un point de vue, hein, que vous exprimez dans votre livre, et on va croiser, on va dire ce que vous en pensez, avec Maître Mireille Damiano, et puis aussi avec notre observateur privilégié qui est le docteur Bornstein, à qui je vais redonner la parole dans quelques secondes.
L'heure du crime sur RTL.
On revient à l'histoire incroyable d'Albert Millet. Là, on était en 1979. Cette scène incroyable d'un homme qui poignarde le matin à 7h sa femme, quoi. Qui va ensuite aller à la fenêtre, dire « j'ai tué ma femme », tirer sur tout ce qui bouge et en même temps hurler. Il le dit très bien dans son livre, Didier Fabre, il hurle à tout le monde « j'ai tué une sainte, qu'est-ce que j'ai fait, c'est terrible, je vais me suicider », mais finalement, il se suicide pas. Bon. Alors, puisque je vous voyais écouter avec beaucoup d'attention Serge Bornstein ce que disait Didier Fabre, il faut savoir, dans son livre, il explique que ces 3 heures, il les a, si j'ose dire, traînées avec lui pendant des mois et des mois. Il ne pouvait plus parler que de ça, ne pensait qu'à ça. Vous connaissez aussi ce syndrome-là?
Bien sûr, c'est un syndrome post-traumatique. Ouais. Il a assisté à une scène d'apocalypse.
Et il a dû penser aussi qu'il pouvait y rester, quoi.
Hein. Oui, il a frôlé de très près la mort de quelqu'un qui est intransigeant et qui détruit tout ce qu'il n'admet pas. Et donc, il en a gardé une trace indélébile.
Ouais. Et le comportement d'Albert Millet, alors tel qu'il vous a été décrit, ça complète un peu ce que vous pensiez.
Je pense que c'est surtout un personnage qui a une conduite psychopathique, qui vit avec avidité dans l'instant, sans trop se préoccuper des conséquences de ses actes, qui a une instabilité majeure, une impulsivité, et qui a sur le plan affectif des carences fondamentales qui tiennent à son enfance misérable, très probablement. Donc il a mené la vie de ces sujets-là avec les fameux bat d'af, où il a appris à manier avec dextérité les armes, et l'arme, c'est devenu sa seconde nature, en quelque sorte. Dès que ça va pas, il fait parler la poudre.
Il fait parler la poudre ou le poignard.
Ou le poignard, mais enfin, il détruit ce qu'il perçoit comme un obstacle
Il rêve de la grande histoire d'amour. Hein,
sans arrêt, il change. Il est franchement amoureux fou chaque fois.
Alors, on va continuer à en parler avec Maître Damiano, Maître Mireille Damiano du barreau de Nice, qui est en ligne. Bonjour, Maître.
Bonjour.
Alors, vous arrivez dans cette affaire, cette histoire incroyable, en 2001, je crois, enfin, après 2001, parce que il est libéré, il va être condamné, évidemment, hein, pour le meurtre de Fernande, et il va sortir de prison en 2001. Et il va entamer là une nouvelle romance avec une certaine Gisèle.
Tout à fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, il est incarcéré depuis très 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 longtemps.
Oui.
Et il va solliciter tout d'abord, ce que le juge de l'application des peines d'ailleurs va lui concéder, des autorisations de sortie. Mmh. Qui sont des autorisations de sortie sur 48 heures et sur Nice. Il va loger dans un petit hôtel en dessous de la gare et les choses se passent extrêmement bien puisqu'il va respecter absolument les instructions qui lui sont données de revenir ensuite à l'issue de ses permissions de sortie.
Voilà, c'est pour ça que finalement il va pouvoir sortir.
Et c'est à l'occasion d'une de ses permissions de sortie qu'il va rencontrer la dénommée Gisèle. Extrêmement rapidement, si ma mémoire est bonne d'ailleurs, le jour même de leur rencontre, l'invite à son domicile.
Oui, d'accord.
Et c'est ainsi que, plutôt que d'aller, bien entendu, à l'hôtel qu'il accueillait, il sera hébergé chez cette personne avant même que d'être libéré définitivement.
Alors, c'est curieux, Maître, parce que à l'instant, Serge Bornstein parlait d'un mâle alpha dominateur, etc. On a l'impression, quand il rencontre Gisèle, le mâle devient très soumis, parce qu'il fait le ménage, il fait les courses, il fait la vaisselle, il lui donne son argent, hein, c'est ça
des tâches domestiques très tôt le matin, dira-t-on. Il se lève vers 6 heures pour faire le ménage, pour faire les courses. Elle l'entraîne dans toutes sortes de d'achats, y compris fort onéreux d'ailleurs, de bijoux. Il va même d'ailleurs céder et négocier des bijoux de famille qui lui ont été remis à sa sortie par
son avocat,
du premier confrère qui s'en était occupé, chez qui les avait laissés. Et on va voir s'accumuler un certain nombre de dons, y compris en argent, pour la famille immédiate de Gisèle.
Et puis un jour, elle va lui dire, c'est fini, parce qu'il est trop pesant, parce qu'il est jaloux, parce qu'il la surveille, parce qu'il veut tout savoir. Et un jour, elle lui dit, non, toi tu dors dans le salon et moi dans la chambre. Et c'est là où, une fois de plus...
Par écrit, en réalité, elle lui écrit des pages qui sont assez particulières, puisque elle met une deadline, une date au-delà de laquelle, s'il n'a pas rempli le contrat qui était le sien au départ, la relation sera terminée, effectivement. Et elle lui dit, mais moi, j'ai toujours rencontré des hommes intéressants. Et tu n'en es pas, donc, de mémoire, je crois que c'était le 15 février, peu importe.
Elle ne savait pas jouer avec le feu.
D'où un épisode assez particulier, parce que de ce fait... il va inventer une histoire un peu à
propos de la banque. Oh, c'est formidable, une histoire de trésor. Il lui dit, j'ai des lingots d'or qui sont enterrés quelque part. On va prendre le train de Nice pour aller du côté d'hier. Il cherche ce truc, puis à un moment, elle commence à prendre peur. Elle se dit, finalement, on est dans la pampa. Et s'il me tuait, là, personne ne le saurait.
L'ensemble des témoins, puisqu'ils sont revenus en interpellant un véhicule, avaient à ce moment-là dit qu'il n'y avait aucune espèce de menace et que le couple parlait tout à fait normalement dans la voiture du retour.
Finalement, ça va jouer au procès. Là, c'est vous qui allez le défendre pour ce procès. Mm-hmm. Où finalement, on n'a pas dit ce qui s'est passé le 17 février, mais ça, on y reviendra dans un instant. Il va lui porter un coup de couteau à la gorge, mais qui ne sera pas mortel, une blessure qui ne sera pas mortelle. Et tout ça va à nouveau être mis sur le compte d'une sorte de drame passionnel. Il va prendre 7 ans, on peut dire, pas vous faire rougir, mais qu'il a eu une très bonne avocate.
Jacques Pradel sur RTL.
La trajectoire sanglante d'Albert Millet, c'est le titre qu'avait donné à son livre Didier Fabre, livre paru aux éditions des Presses du Midi. On va retrouver Didier Fabre dans un instant, ainsi que le docteur Bornstein d'ailleurs. Mais d'abord, on revient à vous, maître Mireille Damiano. Donc on a dit cette histoire avec Gisèle qui est complexe quand même, parce qu'elle le pousse un peu dans ses retranchements, c'est quand même, on peut le dire. C'est une femme intéressée, il va dépenser beaucoup d'argent pour elle. Bon, et puis il la tue pas. Alors, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que justement, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de... Il prend un couteau, encore une fois, au matin, alors qu'elle lui a dit de...
Ça se passe, au domicile de cette personne, et concomitamment à la date fatidique de la fin de leur relation annoncée, en tout cas.
17 février.
Donc, c'est pas du tout une arme qu'il avait sur lui, c'est un couteau qui s'est situé dans la cuisine.
Mais oui, il venait de faire la vaisselle, il dira.
Tout à fait. Au moment même d'ailleurs où il va porter ce coup, alors qu'elle essaye d'interpeller son bras, il lui dit « Mais fais attention Gisèle, tu vas te faire mal. » Il va donc partir. Et pendant les 2-3 heures qui suivent, chercher à joindre son référent du service pénitentiaire. Qui était une personne
Donc il n'est pas en cavale, quoi. Ça a joué certainement au procès, ça. Oui.
Tout à fait. Il l'a appelé en lui disant voilà ce qui s'est passé, venez me chercher. Et rendez-vous lui est donné d'ailleurs dans le bureau de ce professionnel.
Où on va venir l'arrêter, quoi. En fait, c'est lui qui va appeler la police. Alors, comme on est très pressé par le temps, maître, je voudrais avoir votre propre appréciation sur ce personnage, sur cette succession de passages à l'acte. Il va prendre 7 ans. Quand il va sortir, il aura 78 ans. Il va sortir en 2007. Et il va recommencer.
C'est un personnage qui est particulier parce qu'il s'exprime particulièrement bien. Il fait une analyse d'ailleurs qui n'est pas sotte de la situation et des risques de répétition. Et il revient particulièrement sur son passé familial, hein, qui le hante tout à fait.
Oui, ce dont parlait Serge Bernstein tout à l'heure.
Mais ce qui, moi, me semblait quand même assez particulier et devoir être relevé, c'est que lorsqu'on a quand même quelqu'un qui subit autant d'années d'incarcération, qui est amené, par définition, à sortir un jour de sa geôle, malheureusement, on avait relevé qu'il n'y avait eu strictement aucun accompagnement.
Okay, voilà, pas d'accompagnement psychologique. En fait, il arrive, c'est un peu comme, je ne sais plus comment, Good Morning Lenin, là, c'est-à-dire qu'il va sortir, il est dans un monde qui ne connaît plus. Quoi.
Il ne connaît plus du tout, il n'en interprète pas du tout les signes. Ouais. Et c'est vrai que, en conséquence de quoi, il pense pouvoir recréer quelque chose avec cette femme, étant précisé que sa mère était un petit peu problématique, puisqu'elle était une femme de rue, et qu'il en avait effectivement beaucoup souffert. Donc, à un moment donné, lorsqu'il découvre la manière dont elle se comporte, je pense que ça a dû faire référence, mais votre expert...
Oui, on va lui poser la question tout de suite.
Peut-être vous éclairer sur ce point. En tout cas, ce qui m'avait, moi, semblé être tout à fait évident à rappeler, c'est que je pense qu'on aurait pu essayer d'éviter quand même une partie du drame, parce que lorsqu'il avait des consignes, il les a respectées, mais encore fallait-il lui en donner.
Ouais, d'accord.
Ouais. Et que l'on aurait pu peut-être préparer un peu mieux cette sortie.
Je vous remercie beaucoup, Maître Damiano. On ne peut pas aller plus loin là, mais c'est vraiment très très intéressant ce que vous venez de dire. Alors, un mot, Serge Bernstein, vous êtes d'accord avec Maître Damiano.
Ce qui domine, c'est une impulsivité extrême, le fait qu'il vive dans l'instant et qu'il explose chaque fois sans mesurer les conséquences de ses actes. Puis après, il est tout penaud. Mais enfin, le drame a été tout à fait réalisé.
En fait, quand on s'étonne, et moi je m'étonnais au début de l'émission que 45 ans de prison sur 53 ans de vie ne l'ait pas plus changé que ça, en fait, on comprend que justement, c'est peut-être ça qui a aussi la projeté dans un monde.
L'imprégnation.
Il était parti en voyage dans l'espace, il revient et les choses ont changé. Quoi.
L'imprégnation des carences affectives et éducatives de l'enfance, qui n'ont pas été gommées par la prison, et resté un enfant écorché et abandonné.
Alors, comme je le disais, c'est pas fini, hein, puisqu'il prend 7 ans de prison, il sort, il a 78 ans, et puis il va rencontrer une autre femme, Chantal. Ça va être une romance également qui va mal se terminer, puisque là aussi il veut tout savoir, il va la chercher, il pense qu'elle le trompe. Peut-être d'ailleurs il ne se trompe pas en disant qu'elle le trompe. D'ailleurs, l'enquête l'a prouvé par la suite. Et puis un jour elle lui dit c'est terminé. Alors le 19 novembre 2007, il est éjecté de l'appartement. Faut dire que Chantal a fait venir un de ses amis, Christian, ami intime, qui est là. Et donc, Albert sort, il retourne à l'hôtel dont on a parlé, puisqu'elle habite juste en face de l'hôtel. C'est comme ça qu'ils ont fait connaissance. Il l'avait vu par la fenêtre. Et puis il revient, elle lui demande s'il est calmé, il dit oui. Puis dès qu'elle ouvre la porte, il tire. Alors il va la blesser à la cuisse, mais par contre, il ne va pas rater cet homme, Christian
Fernandez.
Fernandez, oui, merci, qui lui va mourir. Quoi. Mm. Et puis là, il est poursuivi par la police et il repart vers les morts, la colline des morts, c'est ça, Didier Fabre.
C'est la colline qui se trouve en fait au-dessus de hier. On appelait ça la colline du château, parce que les morts, c'est un peu plus loin.
Oui. Et c'est un château en ruine où il avait l'habitude d'aller. Et d'un mot, comment ça se passe? Alors là, il tue donc Fernandez et il blesse gravement Chantal. Et il s'en va, et là, il est en cavale, et la police de vos confrères, parce que vous n'êtes plus là, vous, à cette époque-là, vont finir par le cerner.
Il repère sur une route qui monte vers le vieux château. Et quand il se sent pris, évidemment les policiers qui le repèrent appellent du renfort. Et quand il se sent pris, il met fin à ses jours, il se tire une balle dans la tête.
Voilà. Donc, alors que quand il avait dit je vais me suicider, personne n'y avait vraiment cru. Là, il se suicide vraiment. En fait, il veut pas retourner en prison, quoi.
Oui, c'est ça, tout à fait.
Vous pensez, ça sera ma dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, Didier Favre, vous pensez, comme l'a dit Maître Damiano tout à l'heure, que peut-être on aurait pu éviter certains de ces drames?
Ben, certainement, oui, certainement. Je ne nie pas qu'il a eu une enfance difficile, et certainement qu'il a eu du mal à s'insérer réellement dans la société. Bon, il devait en plus faire un très gros complexe. Oui. Mais ça pose une nouvelle fois le problème de la récidive dans notre pays. Hein. Bon, oui, parce que moi, j'ai tendance, de par mes anciennes fonctions et mes convictions, surtout, j'ai tendance à me passer du côté des victimes.
Ben oui.
Je trouve que il a quand même tué 3 personnes et plus. Ouais.
Certainement aussi avec préméditation. On n'a pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais le meurtre de Fernand, il tue le chien, hein, parce que oui, s'il avait agressé Fernand en présence du chien, qui était un énorme chien, je crois. Une chienne qui s'appelait Myrtille, c'est joli comme nom, mais c'était comme race de chien, c'était pas très...
Un Doberman,
je crois que c'était un Doberman. Donc il était allé quand même promener le chien, officiellement le chien s'est échappé, mais tout le monde pense qu'il a tué le chien et qu'il est revenu ensuite tuer cette femme. En tout cas, écoutez, je vous remercie beaucoup, on peut pas aller plus loin. Didier Favre, je rappelle donc le titre de votre livre, La trajectoire sanglante d'Albert Millet, c'est aux éditions des presses du Midi, et je pense qu'on peut le trouver sur internet.
Sur les bons sites,
et puis vous voyez, on en parle sur les bonnes radios aussi, donc tout va bien. Merci beaucoup, merci infiniment, merci Serge Bernstein. Voilà, l'émission est maintenant terminée.